Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 19 du podcast Les Enfants Vont Bien. L'adoption est un incontournable de nos parcours de PMA et de GPA, un passage obligé dans le but de sécuriser nos familles, car la reconnaissance simple ne suffit pas à établir la filiation et n'est d'ailleurs pas possible dans le cadre des couples de parents de même sexe. Lorsque nous commençons à mettre le nez dans cette jungle, nous découvrons qu'il existe plusieurs types d'adoption, que des délais sont à respecter, un dossier à monter, des professionnels à solliciter, qui, hélas, n'en savent parfois pas plus que nous. C'est donc évidemment l'une des premières questions que j'ai eu l'envie d'aborder avec Maître Berdo. Dans ce nouvel épisode extraordinaire, il est très clair sur les projets d'adoption que nous avons et hyper rassurant sur les cas de séparation que l'on peut être amené à rencontrer. Et naturellement, nous avons parlé de la protection des parents sociaux dans nos différentes configurations de parentalité, et plus particulièrement dans le cadre de la coparentalité entre couples de parents de même sexe. Encore une fois, Maître Berdo, qui est, je vous le rappelle, avocat spécialiste en droit de la famille et plus particulièrement en droit de la famille homoparentale, est de bons conseils, pédagogue et encourageant dans nos démarches. Je tiens à le remercier sincèrement pour ce temps qu'il nous a consacré. Ces questions sont si souvent soulevées que je vous amène, si vous le souhaitez bien sûr, à partager ces épisodes extraordinaires afin d'accompagner d'autres familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent.
Bonjour Constance.
Je vous remercie de vous être rendu disponible à nouveau pour traiter une nouvelle question aujourd'hui juridique. Donc la question suivante justement, puisqu'on a quand même beaucoup abordé le thème de l'adoption plénière et simple, j'aimerais qu'on aborde ces spécificités, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent confrontés à des notaires ou des avocats qui ne sont pas spécialisés, qui ne savent même pas à quoi on peut prétendre. Donc j'aimerais vraiment qu'on fasse un point sur chaque adoption, dans quel cadre y avoir accès ou pas, et surtout quels sont les points les plus importants, en fait, les points clés de chacune des deux adoptions.
Ok, alors... Effectivement, ce sont deux formes d'adoption. D'abord, ce sont deux formes d'adoption qui existent en France, qui n'existent pas partout. Tous les pays ne connaissent pas forcément deux formes. Il y en a qui ne connaissent que l'équivalent de notre adoption simple, d'autres adoption plénière. Il y a des différences essentielles, mais il faut bien comprendre que dans les situations de homoparentalité classique, en gros, coparentalité ou PMA, ou même GPA, enfin, en tout état de cause, des situations dans lesquelles l'enfant a été, dès le début, voulu par telle ou telle personne, les différences s'estompent énormément. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais une famille se trouve confrontée à l'impossibilité d'établir la filiation par adoption plénière, il ne faut pas que ce soit un désespoir. Parce qu'en réalité, l'adoption simple protège vraiment quasi intégralement de la même façon que l'adoption plénière. Alors, il y a des différences importantes, mais qui, pour la plupart, disparaissent dans le cadre spécifique de l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est pour ça que je vous dis que, du coup, les deux formes d'adoption se ressemblent. La première des différences essentielles, c'est que l'adoption plénière vient remplacer le lien biologique. Un enfant qui est abandonné, qui a deux parents légaux, puis qui est adopté de façon plénière par deux autres parents, il n'a plus que ses parents-là. Il a deux parents adoptifs et les deux autres parents biologiques ne sont plus ses parents aux yeux de la loi. Alors que l'adoption plénière vient ajouter un lien de filiation aux filiations existantes ou, en tout état de cause, à la filiation existante. Donc, on peut bien avoir trois parents si on ajoute une adoption simple, alors qu'on ne peut en avoir de toute façon que deux dans le cas d'adoption plénière. Bon. Oui. Néanmoins, première différence essentielle qui est effacée dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'efface évidemment pas l'adoption biologique avec le parent qu'on épouse.
Oui.
Bon, donc déjà, il n'y a pas de raison de renoncer à l'adoption plénière de l'enfant du conjoint sous prétexte qu'on aurait peur de perdre sa filiation. Non, justement, dans ce cadre-là, elle s'ajoute.
Oui. Et c'est vrai que c'est le discours qu'on nous a tenu notamment au début, hein, dans les débuts des adoptions, où on nous disait qu'il fallait renoncer à nos droits biologiques. Ça, c'était très dur à entendre.
Effectivement l'effet normal de l'adoption biologique, mais même avant la loi de 2013, il était prévu, pour les couples hétéros, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'efface pas l'adoption, la filiation biologique. Donc, c'est la première différence qui est exclue. Alors, deuxième différence, on disait, attention à l'adoption simple, transfère les droits aux parents adoptifs, les droits à l'autorité parentale, donc le parent biologique perd son autorité parentale, donc dangereux. Eh bien non, puisque dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, le conjoint biologique conserve l'autorité parentale qu'il délègue aux parents adoptifs. Donc là aussi, à l'option simple, à l'option plénière, les deux peuvent exercer l'autorité parentale. Bon. Autre différence qui continue d'exister, l'adoption simple est révocable, l'adoption plénière est irrévocable.
Et ça, c'est un point qui est clé.
Oui, ça, c'est un point qui est essentiel parce que on n'a pas du tout envie d'une filiation révocable où quand on divorce, l'autre dit, oh, ben, en fait, t'es plus le parent. Mais en fait, c'est pas
c'est clair.
La révocabilité, c'est pour des cas graves. Il y a un cas dans le Code civil qu'on nous cite pour une tentative d'assassinat dans les années 70. C'est évidemment pas je n'ai plus envie d'être le parent ou je n'ai plus envie que tu sois le parent. Donc en réalité, c'est une quasi-irrévocabilité. Mais effectivement, sur le principe, c'est révocable. Donc symboliquement, ça peut gêner. Mais dans la réalité, ça ne met pas en danger le lien juste parce qu'il y a une séparation ou parce qu'on s'entend plus.
Alors après, c'est vrai que par rapport à ça, ce qui se pose comme question, alors peut-être que c'est à tort, hein, mais comme en fonction des élections et des partis qui passent au pouvoir, certains partis estiment que on est contre nature, donc que du coup nos adoptions n'ont pas lieu d'être, ils ont clairement annoncé qu'ils annuleraient toutes les adoptions qui auraient été prononcées. Est-ce que l'adoption plénière, est-ce que c'est faisable déjà? Et est-ce que l'adoption plénière protège plus que l'adoption simple ou pas?
Alors, aucune ne protège plus face à une telle volonté. Je veux dire, alors, je pense que c'est pas faisable parce que ce sont des décisions de justice et d'adoption, donc on peut pas effacer l'effet d'un jugement. Néanmoins, la loi, c'est la loi. Si une loi décide que tel jugement est non avenu, bon, je pense que ce serait anticonstitutionnel, ce serait contraire à tous les droits protégés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je pense que ça n'aboutirait pas. Néanmoins, dans une optique où on quitte la Cour européenne des droits de l'homme, où on change la Constitution, la loi peut tout faire, donc on peut imaginer. Mais dans ces cas-là, non, l'adoption simple et l'adoption plénière ne protègent pas plus l'une que l'autre.
Plus l'une que l'autre.
Non, parce qu'on est dans une idée de fantasme où de toute façon la loi pourrait effacer quelque chose. Il n'y a pas de raison qu'elle efface plus que l'autre. Peut-être qu'il dirait, dans ce cas-là, c'est ce qu'avait dit, je crois, François Fillon dans ses projets quand il était candidat, c'était oui, l'adoption simple, non l'adoption plénière, parce que justement l'adoption simple ne vient pas effacer et que c'est juste une sorte de bonus. Donc on pourrait imaginer que dans ce cas-là, l'adoption simple serait moins susceptible d'être supprimée parce qu'elle est moins impactante. Mais bon, ça crée exactement l'affiliation quand même. Donc si quelqu'un voulait s'y mettre, enfin si ces gens-là se penchaient vraiment sur la question, ils verraient que l'enjeu est un peu le même.
Oui, complètement.
Donc là, d'accord, on est encore sur un cas où les différences sont effacées. Finalement, la seule différence qui continue d'exister, c'est, alors effectivement, le fait qu'on peut être trois parents en cas d'adoption simple, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en pratique, ça n'arrive jamais, puisque le troisième parent, enfin le père, dans le cadre d'un couple de femmes, le père perdrait son autorité parentale, donc il ne va jamais y consentir. La seule différence, elle est fiscale par rapport, et encore, là aussi elle est atténuée, dans le cadre de l'héritage. Alors, dans le cadre de la succession, les enfants adoptifs simples et les enfants adoptifs de façon plénière ont les mêmes droits dans la succession, ce sont des enfants, ils héritent comme n'importe quel enfant. Bon. Ils héritent des mêmes types de biens, des mêmes quotités, tout ça. En revanche, fiscalement, le principe, c'est que c'est traité de la différemment. C'est-à-dire qu'un enfant issu d'une adoption plénière va hériter de ses parents et va payer les mêmes droits de succession que n'importe quel enfant, donc avec les mêmes abattements et les mêmes tranches, alors qu'un enfant qui hérite de ses parents en cas d'une adoption simple va payer comme un étranger, 60%. Donc on se dit, ah ben non, sympa, ah, si on fait l'adoption pour ça, ça coûte cher. Sauf qu'il y a deux exceptions. En vrai, donc ça veut dire que c'est l'enfant à qui le fisc va réclamer les droits au moment de la succession qui va devoir dire, ben non, je rentre dans le cadre de telle ou telle succession. De telle ou telle exception, pardon, c'est lorsque l'adopté a été conduit à vivre pendant X années pendant sa minorité et ou Y années entre sa minorité et sa majorité avec l'adoptant et que celui-ci lui a fourni des secours. Des secours, donc, l'a aidé financièrement, dans la vie. Bon, bah, en gros, ça va être toujours le cas du coparent.
Oui.
Et puis, autre exception, si l'adoption, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc quand on dit conjoint, hein, depuis le début, on est bien, c'est vrai qu'on aurait dû le dire, je ne parle que du mariage. L'adoption hors mariage, pas possible, du tout. Alors, l'adoption simple, si, elle est possible, puisque du coup, on peut adopter de façon simple n'importe qui, mais elle n'est pas intéressante, puisque dans ce cas-là, les parents perdent leurs droits, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc l'adoption simple de l'enfant du conjoint entraîne une exception à la discrimination fiscale et rétablit l'égalité avec l'adoption plénière. Donc là aussi, enfin, équivalence. Le point qui reste, vraiment, pour le coup, c'est qu'on dit que l'adoption simple ne fait pas entrer l'enfant dans la famille de l'adoptant, ce qui n'est pas le cas de l'adoption plénière. Et en gros, la conséquence, c'est que si le parent adoptif décède avant les grands-parents, donc avant ses propres parents à lui ou à elle, l'enfant n'hérite pas de ses grands-parents directement. Alors que dans l'adoption plénière, comme n'importe quelle filiation, lorsque un parent décède jeune en laissant ses enfants et ses propres parents, eh bien, au moment du décès des grands-parents, le petit enfant vient remplacer son parent. Et il hérite autant que ses oncles et tantes, et non pas autant que ses cousins, autant que ses oncles et tantes. Il vient prendre la part qu'aurait eu le parent. Eh bien là, l'enfant adopté simple ne viendra pas prendre la part, donc ça peut être très important, puisque du coup, bien sûr, des grands-parents très riches qui ont eu deux enfants, eh bien si un de leurs enfants meurt, l'enfant adoptif de celui-ci n'aura rien, et l'intégralité de la succession passe à leur autre enfant et à ses héritiers. Donc ça peut avoir une vraie conséquence. Mais c'est, entre guillemets, tout. La protection quotidienne du parent existe quand même. Donc, si on a le choix dans nos situations d'homoparentalité entre l'adoption simple et l'adoption plénière, ce qui n'est donc possible que s'il n'y a qu'une seule filiation, puisque si l'enfant a déjà un père et une mère, de toute façon, il ne peut pas y avoir d'adoption plénière. Donc, lorsque c'est possible de faire l'adoption plénière, il n'y a rien qui justifie de ne pas faire l'adoption plénière. Il n'y a pas de doute. L'adoption plénière, c'est la filiation intégrale, donc autant demander ça. En revanche, si on ne peut pas demander l'adoption plénière parce qu'il y a déjà deux parents, il ne faut pas s'inquiéter de n'avoir, entre guillemets, que l'adoption simple qui, quand même, crée une protection tout à fait équivalente dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Oui. Si c'est en mariage, il n'y a pas l'autorité parentale, donc c'est vrai que c'est un problème.
D'accord, mais de toute manière, si c'est en mariage, on n'a pas accès à l'adoption simple, plénière.
L'adoption plénière, on ne peut pas, mais l'adoption simple, si. Voilà. Mais on n'a pas accès à l'effet, puisque du coup, ça transfère les droits, donc personne ne voudra le faire.
Oui, voilà, exactement. Exactement. D'accord, oui, donc c'est assez complet, et c'est vrai que du coup, ben, ça nous stresse un petit peu moins, je pense, sur le choix qu'on a à faire, et sur, ben oui, c'est vrai que l'adoption simple, c'était un peu le parent pauvre de ce qu'on pouvait obtenir, donc oui, c'était pas simple à admettre.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup de symboles. Par exemple aussi, l'adoption plénière entraîne création d'un nouvel acte de naissance de l'enfant. Il y a remarqué, l'enfant est né de fils de madame nanin et de madame nanin, selon le jugement d'adoption.
Oui, ça, c'est alors symbolique.
Voilà, c'est très important. Et on efface le premier acte de naissance où il n'y avait qu'une seule mère. Alors que dans l'adoption simple, on va garder l'acte de naissance dans lequel il n'y a qu'une seule mère et on va rajouter une mention, comme pour le mariage, le pacte, comme ça, adopté en la forme simple par madame machin. Donc, symboliquement, c'est pas fils de et fils de, c'est fils de madame, adopté par madame. Bon, donc, oui, c'est une différence, effectivement, qui est symboliquement assez forte, alors que le nouvel acte de naissance issu de l'adoption, bah, c'est quand même très important, on voit bien qu'on est sur un pied d'égalité. Bon, en droit, ça n'est pas fondamental.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que finalement, quand on... Alors, c'est clair que ce n'est que symbolique. Mais oui. C'est tellement mais important pour nous.
C'est important. Voilà, c'est un très grand symbole.
Voilà.
Mais j'insiste pour que du coup, lorsqu'on fait une adoption simple, on ne soit pas désespéré. Quoi. On peut être déçu parce qu'il n'y a pas de symbole, mais on n'est pas désespéré sur « Oh là là, toute la vie va changer et la protection va changer. »
Oui, non, finalement, c'est hyper rassurant. Finalement, le seul détail qui a quand même son importance, c'est vraiment dans un cas particulier de décès l'héritage ne sera pas le même.
Ça, oui. Donc, c'est quand même important. Hein. Je dis pas que...
C'est quand même important et puis ça peut arriver. Donc, il faut quand même en tenir compte. Dans le cadre de l'adoption, on a un dossier à compléter donc, qui n'est pas forcément le même, mais qui est quand même très semblable, je crois, entre adoption plénière et adoption simple. Mmh. Dossier qui est relativement lourd, qui est d'ailleurs différent en fonction des tribunaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les impératifs à fournir et notamment au niveau des témoignages, quel type de témoignage il vaut mieux avoir? Est-ce que vous pouvez nous guider un peu par rapport à ça?
Bah, les impératifs au point de vue de la loi, il n'y en a pas, mais en vrai, en pratique, bon, il faut... Les actes d'état civil de tout le monde, acte de naissance, acte de mariage, copie intégrale, tout. Avec la filiation, pas les extraits, tout ça. Donc, les actes de naissance de tout le monde, l'acte de mariage, livret de famille, carte d'identité, tout ça. L'acte de consentement devant le notaire, bien sûr, ainsi que le certificat de non-rétractation du consentement qu'on aura fait. Ça, c'est des pièces de base indispensables, puisque ça prouve que les conditions légales sont bien remplies. Et après, l'autre condition, c'est l'intérêt de l'enfant. Et là, on met ce qu'on veut. Et donc, la plupart des tribunaux, par exemple à Paris, il y a une liste. Et on demande 4 attestations. Si vous en mettez 3, ça vous est renvoyé par le greffe central qui dit il en faut 4.
D'accord.
Je veux dire, c'est complètement fou parce que l'intérêt de l'enfant, c'est pas le nombre d'attestations qui compte. Hein. Donc, il faudrait que j'ai le temps un jour et surtout que les clients aient envie de se battre contre ça pour qu'on dise non, je le maintiens avec 3 et on discutera de ça ensemble devant le juge. Mais bon. Non, les pièces, ça va être pour moi. Quelques attestations, mais pas 50. Voilà, effectivement, 4-5 attestations. Si possible, une d'un côté et de l'autre des familles. Et puis, aussi, une ou deux en dehors du cercle des familles, un ami ou un collègue ou un médecin généraliste. Et en fait, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il va falloir démontrer la normalité. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de « Oh là là, qu'est-ce qu'on va devoir chercher comme pièce ?» Ce sont des pièces qu'on a, c'est-à-dire que les témoignages, on va demander aux gens de faire les témoignages de du vécu du projet d'enfant, du vécu de la grossesse, du vécu des premières semaines, des premiers mois, et donc de constater à quel point, bah, évidemment, la mère sociale de demi-bon, évidemment, il est très attaché à elle, voilà. Quelques petites photos éventuellement, et quelques documents administratifs, l'inscription à la crèche, le contrat avec la nounou, l'assurance, l'attestation de la sécu, dans lequel on va voir que l'enfant est rattaché indifféremment aux deux parents, et donc ça montre une appréhension sociale du lien par l'extérieur comme étant évidemment un lien de famille. Alors, en fait, voilà, l'idée, c'est de montrer que la situation est tout à fait une situation classique, tant du point de vue interne que du point de vue externe à la famille.
D'accord.
Voilà, donc ça va être ces éléments-là qui montrent la stabilité du couple et la réalité d'un projet commun. Et encore, je veux dire, moi je dis à mes clients, par exemple, si vous avez été paxé avant ou depuis quand vous vivez ensemble, mettez-le. Mais maintenant, il n'est pas interdit d'avoir envie de faire un enfant ensemble par PMA 3 semaines après s'être rencontrés. C'est comme ça, coup de foudre, on se rencontre, on se marie, on fait un enfant. Bon, c'est comme ça. Hein. Ça reste quand même l'intérêt de l'enfant d'être adopté par cette famille-là. Donc, c'est pas parce que je peux pas démontrer 10 ans d'existence de vie commune que je peux pas démontrer que c'est pas l'intérêt de l'enfant.
Oui, et désir d'avoir un enfant, tout à fait.
Ah oui.
Et au niveau timing, enfin échéancier, on va dire, de la demande d'adoption, donc normalement, il y a un délai de 6 mois à respecter avant de pouvoir déposer le dossier complet, et il y a donc il faut effectivement ce fameux formulaire de consentement puis de non-rétractation au consentement déposé chez le notaire, donc pour lequel il y a un délai de 2 mois déjà entre les deux. Hein.
Oui, alors, deux choses. Alors effectivement, il faut un consentement puis un certificat de non-rétractation dans les 2 mois. En pratique, on peut parfaitement déposer les dossiers avec le consentement et, vu d'abord le temps que ça prend au tribunal, venir compléter le dossier avec le certificat de rétractation. Donc, il n'est pas nécessaire d'attendre le certificat de rétractation pour déposer le dossier. La question de 6 mois est différente. Le texte dit que l'adoption plénière d'un enfant ne peut pas être prononcée s'il n'a pas été accueilli au foyer de l'adoptant pendant au moins 6 mois. Donc, on comprend, bah, du coup, c'est pas possible avant qu'il ait 6 mois. Il nous a semblé, nous les praticiens de cette question-là, absolument évident après la loi de 2013 que ce délai de 6 mois ne s'applique pas dans le cadre de l'enfant du conjoint. On n'a pas besoin de demander d'attendre 6 mois pour savoir si on veut être les parents ou pas. Et donc on a déposé plein de dossiers pour des bébés et on a eu plein d'adoptions. Jusqu'à ce que l'information, enfin ce petit texte ressorte et puis qu'il y ait un juge qui se pose une question et puis 2 puis 3 et qu'on se mette désormais à nous dire qu'est-ce que vous en pensez du délai de 6 mois au moment où vous avez déposé la requête, l'enfant n'est pas de 6 mois, c'est embêtant. Par exemple, à Bourg-en-Bresse, je ne sais pas pourquoi, mais Bourg-en-Bresse, c'est clair et net, il faut attendre les 6 mois. Alors qu'à Paris, par exemple, pour l'instant, ils continuent à ne pas forcément y faire attention. Mais donc la question qui va se poser maintenant qu'on a une incertitude, pourtant il est clair que moi, j'avais fait une recherche dans un dossier spécifiquement sur les débats parlementaires au moment du vote c'est les lois de 1966 et après réformées un peu plus tard dans les années 90 puis 2000 quand on avait discuté de ce délai, il est clair que ça ne vise pas l'adoption d'enfant du conjoint, ça vise un enfant étranger au couple et c'est une sorte de c'était député de l'époque, une sorte de stage. Pourtant, il est vrai, ça, il n'y a pas de doute, le texte est prévu pour l'adoption en général, il n'est pas exclu dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, alors que d'autres textes, comme par exemple la différence d'âge ou la durée du mariage, sont exclus pour l'adoption de l'enfant du conjoint. Du coup, c'est vrai que quand on lit le Code civil, ce délai s'applique. Et aujourd'hui, on doit décider avec nos clients à chaque fois, c'est est-ce qu'on dépose la requête maintenant ? Mais si jamais on le dépose quand l'enfant a 4 mois, et que le tribunal met de toute façon 8 mois à traiter le dossier et que dans 8 mois on nous dit votre requête était irrecevable, l'enfant aura donc un an et on aura perdu un an et il faudra recommencer. Donc qu'est-ce qui vaut mieux ? Attendre directement les 6 mois. Et pour l'instant, ça je laisse le choix à chaque client, mais il est clair que la plupart, enfin même toutes pour l'instant, me disent bon bah attendons les 6 mois. Mais c'est vrai que ça veut dire que pendant 6 mois on n'est pas protégé.
Ben oui, c'est ça. Et c'est justement toute la question, toute la question du problème, parce que il arrive qu'il y ait des couples qui se séparent dans les 6 mois.
Ah ben tout à fait. Et ben là, c'est effectivement une situation dramatique de tous ces couples, comme les couples qui sont séparés avant la loi, sans lien filiation. Et là, effectivement, ben là, si ils se séparent en 6 mois et qu'on n'a pas pu déposer la requête, on peut presque rien faire. Je dis presque parce qu'il est toujours possible de déposer. Enfin, c'est toujours l'adoptant qui dépose la requête. Donc, l'adoptant, il a toujours envie de le faire, même après la séparation. Par contre, il est clair que le parent ne voudra plus consentir. Mais il est prévu dans le Code civil que le juge peut passer outre le consentement d'un parent lorsque ce parent se désintéresse manifestement de l'enfant et fait courir un danger pour sa moralité et sa santé. Alors, vous allez me dire, c'est pas parce que je consente pas à l'enfant. C'est pas fréquent, oui, mais on peut soutenir, et il y a un jugement qui vient de le soutenir, que le fait de refuser le consentement à son ex-conjoint, alors qu'il est clair dans le dossier que c'est un projet commun, que c'est l'origine de l'enfant, eh bien, c'est une manifestation du désintérêt de l'enfant, et ça lui fait courir un risque pour sa moralité, et ça, c'est clairement un argument. Donc, c'est une piste. Maintenant, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir le consentement.
Oui, donc par rapport à cette question effectivement du délai, c'est le gros risque qui fait qu'actuellement il y a des familles qui se retrouvent complètement séparées et dont les enfants ne voient plus leur deuxième parent. La solution pourrait être dans ce dernier jugement, mais bon, c'est vrai que c'est pas acquis en fait.
Oui, pourrait être là-dedans, de tenter l'adoption sans consentement.
Sans consentement. Et alors, concernant donc toujours l'adoption, il est question, donc on a possibilité de passer par un avocat qui va lui-même déposer l'ensemble du dossier et le monter, et possibilité aussi de s'affranchir de l'aide d'un avocat et de passer en direct via le procureur de la République.
Tout à fait.
Je me doute que votre conseil, et ce serait logique, serait de passer par un avocat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'apport de l'avocat comparé au fait de monter un dossier soi-même?
Alors,
outre la question du budget.
Déjà sur la question de avec ou sans avocat, j'ai vu beaucoup dans des forums une inquiétude, parce qu'il y a eu une réforme récente, une grosse réforme de procédure civile, de savoir si on pouvait ou non faire sans avocat. Alors, peut-être que ça résulte d'une erreur du législateur et que ça va être corrigé, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que la situation n'a pas changé. Certes, désormais, le principe de la représentation obligatoire par un avocat en matière civile a été posé. Néanmoins, il existe toujours les textes du Code de procédure civile qui n'ont pas été modifiés et qui disent que la requête est déposée par un avocat, mais lorsque l'enfant... Alors, on le résume en disant lorsque l'enfant a moins de 15 ans. Non, c'est lorsque l'enfant a été accueilli au foyer de l'accueillant, au foyer de l'adoptant avant ses 15 ans, alors le requérant peut déposer lui-même sa requête devant le procureur. Donc, pour moi, ça n'a pas changé. C'est soit avec avocat et on le dépose devant le greffe du tribunal, mais ça, c'est nous qui gérons, soit sans avocat et c'est déposé au procureur. Et si c'est sans avocat, c'est que pour un enfant qui est dans la famille avant ses 15 ans, mais en gros, ce sera toujours le cas dans nos situations. Bon, c'est la première chose. Alors, deuxième chose, vous me dites, je m'en doute, dit qu'il faut le faire avec un avocat. Pas forcément, enfin, je vais être honnête, oui et non. Clairement, aujourd'hui, dans le cas classique désormais d'un couple de femmes qui a fait une PMA à l'étranger, la plus-value d'un avocat, je le dis très clairement, n'est pas dans le résultat. On sait qu'on aura l'adoption. Alors, il faut tout de suite nuancer la preuve. Avec la jurisprudence de Versailles, on peut toujours tomber sur quelqu'un qui ne veut pas, ou avoir une question particulière, et être déstabilisé à l'audience, et que ça puisse donner lieu à un jugement de rejet, même si pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, mais la plus-value de l'avocat n'est pas « attention, avec un avocat, vous l'aurez, sans avocat, vous ne l'aurez pas », dans la plupart des cas. La plus-value de l'avocat, elle est à mon sens dans... Alors, d'une part... vous déchargez effectivement de tout ce qui est la constitution du dossier. Vous savez que le dossier, il est bien présenté, il est suivi et il a tout ce qu'il faut du premier coup. Il n'y a pas d'aller-retour avec les tribunaux, enfin théoriquement, si c'est bien fait, avec les tribunaux, sur les manquer de pièces ou pas. Et par ailleurs, dès qu'il y a une petite question un peu spécifique, par exemple, si l'adoptante n'est pas de nationalité française, voilà, un couple avec une femme qui accouche, elle est française, très bien, mais l'adoptante n'est pas française. Or, il y a une spécificité, la loi qui s'applique, c'est la loi de l'adoptant. Donc, si l'adoptant est italien, on va aller regarder si la loi italienne permet l'adoption de l'enfant du conjoint. Il se trouve que la loi italienne ne connaît qu'une forme d'adoption qui se rapproche plus d'adoption simple. Donc, du coup, il faut argumenter pour essayer d'avoir l'adoption plénière. Donc ça, évidemment, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, quelqu'un qui est sans avocat ne va pas forcément, qui n'est pas une formation juridique, pas forcément comprendre le mécanisme ni savoir le faire. Et puis si vous tombez sur tel procureur récalcitrant qui vient vous chercher une petite bête, il est plus confortable dans ces situations-là d'être avec un avocat. Donc la plus-value de l'avocat, elle est dans le traitement du dossier et dans la meilleure réaction aux aléas, un dossier qui peuvent toujours arriver. Donc, et d'ailleurs, moi je suis assez transparent avec les clientes, c'est ce que je dis à toute personne qui vient me voir. Les gens qui décident de passer par moi plutôt que de le faire toute seule, c'est pour un côté, tranquillité, c'est suivi, on nous demande ce qu'il faut faire, on fait le dossier et il est bien fait. On est plus un guide qu'une garantie du résultat.
Oui, complètement. Mais c'est vrai que dans tous les cadres un petit peu extraordinaires, double nationalité, expatriation... parce que notamment je pense à un cas d'un entretien que j'ai fait où les deux mamans sont françaises mais le bébé est né à l'étranger et donc a une filiation à l'étranger mais n'en a pas en France, c'est clair que le recours à un avocat est nécessaire.
Il est conseillé.
Oui.
Il est conseillé dès qu'il y a une spécificité parce qu'en fait il faut savoir réagir et puis l'accès au tribunal, l'accès au greffe n'est pas facile, la consultation des dossiers, tout ça, bon. Oui. C'est la réaction à l'audience. Je veux dire, on peut être déstabilisé par des juges. Hein. Il y a eu des audiences, on a beau avoir eu le jugement à l'adoption dans des situations classiques, on a été bousculé.
Oui, complètement. C'est même assez fréquent, finalement. Et alors, j'ai un dernier point concernant l'adoption, point sur lequel on s'interroge et on a tendance à, par défaut, même sans savoir si ça vaut le coup ou pas, on met en place, quel est l'intérêt de rédiger un testament pour justement pallier à ce fameux délai, au risque qu'on pourrait encourir si ben, y a un décès, notamment, ouais. Pendant ce délai-là.
Alors, il y a un intérêt, y a un vrai intérêt. Alors déjà, dans le dossier, bah, ça montre bien, ça, on insiste sur la place de chacun. On peut montrer qu'évidemment, il y a un lien, un projet commun. La preuve, la mère biologique avait désigné madame comme étant la tutrice qui devait s'occuper de l'enfant en cas de décès, donc c'est une pièce de plus. Mais il y a un lien, il y a un intérêt, alors, qui est jusque, bien sûr, au prononcé d'adoption, parce qu'une fois que l'adoption est prononcée, bah, on est le représentant légal. Donc si le parent biologique meurt, de toute façon, c'est le parent adoptif qui prend tous les pouvoirs. Qui garde les pouvoirs qu'il avait avant et qui concentre les pouvoirs des deux, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a un intérêt parce que c'est ce qu'on appelle cette tutelle testamentaire, qui est donc un document par lequel vous expliquez que si vous décédez, c'est telle personne qui, selon vous, devra garder l'enfant et s'en occuper, qui est un document que vous pouvez faire sur un papier libre et le faire enregistrer après devant notaire ou pas. Hein, l'enregistrement devant notaire, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est un intérêt majeur qui est qu'en cas de décès, on est sûr de le retrouver, ce document.
Oui,
on interroge forcément le fichier. Cette tutelle testamentaire va désigner telle personne comme étant tutrice. Alors, si la mère légale meurt et qu'il n'y a pas d'adoption, la mère sociale est désignée comme tutrice. Ça n'empêche pas que, puisqu'il n'y a plus de représentant légal, le juge des tutelles va être saisi et va constituer ce qu'on appelle un conseil de famille. Donc, il va réunir les proches de l'enfant. Il va un peu au fur et à mesure de la découverte de leur existence, est-ce qu'il y a les grands-parents, est-ce qu'il y a les oncles, des tantes, des parrains, des marraines, bon. Il va dire au conseil de famille, ben voilà, on a un testament qui désigne madame, donc ce sera madame, sauf si vous me démontrez que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant.
D'accord.
Dans la famille où tout va bien, du coup, il n'y a pas de discussion, et donc ça vaut le coup, parce que ça évite la discussion. Après, même s'il n'y a pas ce document, et ou que le conseil de famille vient s'opposer, ça n'empêchera jamais la mère sociale de soutenir qu'elle est la mieux placée, et il faudra juste faire un dossier, un contentieux et le démontrer, et le juge pourra quand même placer l'enfant chez la mère sociale s'il estime que c'est bien elle qui est la mieux placée. Mais la tutelle testamentaire évite une certaine discussion et surtout démontre la volonté de la mère et renforce le statut. Quoi.
Oui, d'accord. Oui, donc finalement, c'est vraiment...
Il y a un truc qu'il faut préciser aussi sur la protection dans la période transitoire. Il y a un intérêt à ce que la mère biologique donne son consentement dès la naissance, le plus tôt possible, parce que s'il arrive quelque chose à la mère biologique après qu'elle ait donné son consentement, la mère sociale pourra quand même déposer toute seule la requête, puisque la requête, c'est une démarche faite par... C'est une demande de la mère sociale. C'est pas... La mère biologique n'est pas une partie de la procédure. Donc, elle pourra le faire toute seule.
D'accord, oui. Donc, c'est vrai que dès le jour de la naissance, en fait, on peut faire le consentement.
Dès qu'on peut, il faut faire... Voilà, dès le jour de la naissance, donc il faut le temps d'aller chez le notaire, quoi, en gros. Mais ça vaut le coup de le faire très vite, même si on sait qu'on ne pourra pas déposer avant 6 mois. Et de même, dès qu'on a déposé la requête, donc avant 6 mois si on veut tenter le coup, ou après les 6 mois, eh bien si c'est la mère sociale à qui il arrive quelque chose, la procédure pourra continuer et la filiation pourra être établie de façon posthume.
D'accord, ok. Donc ça, c'est excellent, c'est très bon à savoir, parce que au moins ça garantit, et puis nous, on a l'impression d'être acteur.
On a l'impression d'être acteur, et au moins, clac, on bloque un peu, dès qu'on peut, on bloque un peu de sécurité, quoi.
Oui, complètement. Ok, bon, je pense qu'on a pas mal balayé le sujet aussi. C'est très rassurant tout ce que vous nous avez fait découvrir, notamment sur les différents types d'adoption et sur ce fameux délai qui est pour nous toutes, je crois, une vraie crainte, mais aussi,
qu'il y a une prochaine petite réforme, c'est un tout petit amendement qui pourrait préciser que ça ne s'applique pas dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui serait... Ça n'a pas beaucoup d'enjeux au point de vue symbolique et politique, et ce serait d'une part du bon sens et très très important pour bien des familles.
Oui, et puis pour bien des familles homosexuelles comme hétérosexuelles.
Bien sûr, bien sûr. Ouais,
c'est clair que c'est... Bon, c'est après, voilà.
Sauf qu'en fait, dans les familles hétérosexuelles, la situation d'une femme qui demande à son époux d'adopter son enfant, ça peut parfaitement exister, mais si on se retrouve dans cette situation-là, notamment d'un bébé, c'est que le bébé n'a pas été reconnu, puisque s'il a été reconnu, il ne peut pas être adopté par le mari. Et franchement, vu qu'ils peuvent faire la reconnaissance, le mari, il a aussi vite fait d'aller à la mairie pour dire « je reconnais mon enfant, point ». C'est pas le mien, mais
oui,
c'est pas grave.
Oui, c'est pas faux.
Donc, donc ça arrive quand même assez rarement, sauf dans les cas où vraiment, bah, ils veulent respecter, il sait que c'est pas son enfant, il veut pas faire de reconnaissance, il veut l'adopter. Bon, et puis c'est vrai que l'adoption, une fois qu'elle est prononcée, elle est irrévocable, alors que la reconnaissance peut être contestée si le vrai père arrive.
Bon, ça, oui, c'est vrai aussi.
Mais c'est quand même beaucoup plus simple.
Tout à l'heure, on a évoqué notamment la coparentalité. Donc je pense qu'on va, basculer sur ce sujet-là qui est un thème extrêmement vaste. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, en tout cas dans le cadre actuel de la loi, parce que je pense que ça peut être amené à bouger, nous expliquer un petit peu quels sont les avantages de la coparentalité, les points difficiles aussi, et notamment en termes de reconnaissance du deuxième, enfin des parents 3 et 4, on va dire, puisque logiquement il y a deux parents connus qui ont une reconnaissance. Qu'est-ce qu'il en est pour les parents, les coparents?
Alors, je ne peux pas vraiment vous dire quels sont les avantages et les inconvénients, puisque c'est en fait c'est juste un projet différent. On ne choisit pas, à mon sens, enfin ça n'est jamais arrivé, que je vois des gens hésiter entre coparentalité et GPA, ou coparentalité et PMA, ou coparentalité et donneur connu. En fait, ça dépend si on veut qu'il y ait un père et une mère, ou si on veut que l'enfant soit l'enfant du couple de mère, ou enfin vraiment ça dépend d'un type de projet. Donc ça... Il n'y a pas d'avantage particulier, il y a des conséquences différentes, c'est sûr.
Mais
y a
oui,
pas...
c'est vrai.
Alors, la coparentalité, donc, pour qu'on soit bien sûr de parler de la même chose, c'est donc le cadre, un cadre dans lequel un père, au moins un père et une mère veulent faire un enfant ensemble alors qu'ils ne sont pas en couple, et chacun de ce père et de cette mère, ou l'un des deux, a un conjoint ou pas, parallèlement. Bon, bah, si, un petit avantage, déjà, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de faire un bébé. Hein. C'est la façon la plus facile de faire un bébé, plutôt que la PMA ou, encore pire, la GPA. Mais, donc, la conséquence, dans le cas de cette coparentalité, c'est que l'enfant aura un père légal et une mère légale, puisque le père va reconnaître l'enfant, la mère n'a pas besoin de reconnaître l'enfant, son simple nom dans l'acte de naissance crée la filiation, et l'enfant a deux parents, deux titulaires de l'autorité parentale, qui ont vocation à l'éduquer ensemble. Alors, ils vont signer une charte ou pas de coparentalité, un document qu'ils vont faire entre eux avant pour un peu établir les bases de leur accord. Une fois que l'enfant sera né, ils vont, s'ils sont bien conseillés, faire homologuer une partie de cette charte qui concerne vraiment l'autorité parentale devant le juge d'affaires familiales pour être sûr d'être tranquille chacun avec un accord qui sera respecté.
Et donc c'est une valeur légale, en fait.
Alors la charte qu'on va faire avant la naissance, ça a une valeur dans le sens où on écrit un peu son histoire. Là, j'en suis en train de suivre une famille. La charte est signée à 3, on écrit de la part de chacun, la place de chacun. Aujourd'hui, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous ne demandez pas si c'est légal, pas légal. Je vous fais des commentaires, bien sûr, pour vous dire si c'est autorisé, pas autorisé, si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, selon moi ou pas. Mais, mais c'est votre histoire. Et ça restera votre histoire, et ça restera un document qui est chez vous. Après, parallèlement, je rédige une convention parentale que je soumets au juge d'affaires familiales et qui traite plus spécifiquement et de façon plus formelle, plus encadrée, de la résidence et de la pension, en gros, des questions financières, mais comme entre n'importe quel parent séparé. Oui. Donc ça n'a pas moins de valeur légale que des parents qui ne vivent pas ensemble, parce que la coparentalité, c'est des parents qui ne sont pas en couple.
Oui.
Donc ça peut être qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne sont plus en couple, c'est pareil. Mm-mm. Au lieu de la loi, c'est exactement pareil. Les deux parents ont exactement les mêmes droits. Et donc, ils doivent se mettre d'accord sur tout. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est le juge qui tranche. Sur l'école, sur la résidence, sur la religion, tout. Comme n'importe quel parent séparé.
D'accord.
Donc, leur statut à eux est 100% équivalent au statut des parents, de tous les parents, héritage, nom, obligation alimentaire, tout.
D'accord.
Et bah, du coup, il faut le savoir, hein, en France, le statut de l'enfant n'est plus du tout lié au statut conjugal de ses parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas moins de droits parce que les parents ne sont pas mariés, ça c'est fini. Les enfants naturels, légitimes, tout ça, plus de conséquences.
D'accord.
Donc, effectivement, ce n'est pas le lien des parents qui est intéressant dans cette situation-là. C'est, enfin, ce qui est intéressant au point de vue juridique et des questions à se poser, c'est la place des coparents. Eh bien, la place des coparents, qu'il y en ait un ou deux, c'est la même que celle que j'évoquais antérieurement, la place de la deuxième mère lorsque le père a voulu reconnaître l'enfant, ou la place dite du tiers. Ils vont avoir à leur disposition éventuellement la délégation de l'autorité parentale. Alors, l'adoption d'une part par l'un des deux coparents. L'adoption par les deux coparents. L'adoption simple par la compagne de la mère, par l'épouse de la mère, ou la compagne d'ailleurs, et l'adoption simple par l'époux ou le compagnon du père. Déjà, ce n'est pas possible que les deux adoptent. Parce qu'il est écrit dans le Code civil que nul ne peut être adopté deux fois, si ce n'est par deux époux. Donc il faudrait que les coparents se marient entre eux, ce qui n'est pas du tout le but dans cette opération.
A priori non.
Donc déjà, voilà, pas d'adoption possible par les deux. Est-ce que l'un des deux peut l'adopter ? Donc, comme on l'a vu dans le cadre de l'adoption l'enfant du conjoint, ça ne pourrait être qu'une adoption simple puisqu'il y a déjà un père et une mère. Or, l'adoption simple aurait pour effet de faire perdre à l'autre parent son autorité parentale. Donc, ça n'arrivera jamais.
Oui, et a priori,
c'est pas le but non plus. S'ils ont voulu être coparents, c'est qu'ils voulaient avoir l'autorité parentale tous les deux. Donc, pas d'adoption pour les deux coparents. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste ? Est-ce qu'ils peuvent avoir la délégation partage d'autorité parentale ? Oui, avec cette particularité que le texte dit « Les parents peuvent, ensemble ou séparément, déléguer à un tiers leur autorité parentale. » Donc, ce serait limité à un tiers. Alors, pour l'instant, la question s'est posée plein de fois en pratique, mais je n'ai jamais eu de clients qui ont envie d'aller devant le juge pour ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire « c'est un tiers » de façon un peu générique, mais on pourrait le demander à deux, pour deux personnes ? A priori, ce n'est pas ce que dit le texte, mais est-ce que la jurisprudence serait suffisamment souple ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour l'instant, la délégation d'autorité parentale, c'est possible au moins pour un des deux coparents, pas forcément pour les deux. Et donc, parfois, quand c'est possible que pour un, ils ne veulent pas le faire. Parce que s'il y en a deux des coparents, il n'y a pas de raison. Quand il n'y en a qu'un, pourquoi pas. Et après, ces deux coparents ont, comme n'importe quel tiers qui aura fait partie de la vie de l'enfant, la possibilité de faire établir les modalités de leur relation personnelle, donc un droit de visite et d'hébergement en cas de séparation, de conflit, de décès, pour maintenir leur relation. Mais pas de filiation, et donc ils dépendent, donc pas d'autorité parentale, pas d'héritage, simplement un maintien de leur lien.
Et donc ça, c'est dans la fameuse charte qui doivent établir
avant la naissance de l'enfant. Ça, ils peuvent le mettre dans la fameuse charte qui sert, parce que si jamais il y a un désaccord un jour, ils pourront toujours dire « regardez quel était notre accord ». Donc ça n'a pas de force exécutoire dans le sens où on ne peut pas dire « c'est marqué dans la charte, tu dois faire ça », mais on peut aller voir le juge qui serait saisi en disant « attendez, elle veut ceci ou il veut cela, mais pourtant, il y a 3 ans, regardez ce qu'on avait décidé. Alors certes, ce n'est pas obligatoire, mais voilà quel était l'esprit. Et le juge va être sensible à ça, il va regarder, il va interroger le parent sur pourquoi vous avez changé. Il y avait bien marqué que c'est un projet à 4, pourquoi maintenant vous dites que le compagnon du père, c'est un étranger et qu'il n'a pas accès à l'enfant ? Donc c'est quand même un élément. Mais ces droits-là n'ont pas besoin d'être marqués dans la charte pour être octroyés. C'est des droits qui existent dans le Code civil, les droits du tiers et de délégation de l'autorité parentale.
Oui, donc du coup, les coparents, finalement, s'ils ne passent pas pour l'un, en tout cas, sur de l'adoption simple, ils ont des droits d'office, des droits de coparents.
Ils auraient des droits de délégation d'autorité parentale, ça c'est si les parents le veulent, et sinon, si jamais il y a un contentieux ou un décès, ils ont le droit de saisir le juge pour faire reconnaître les modalités de leur relation personnelle avec l'enfant en tant que tiers, et donc là, c'est l'appréciation du juge, mais en tant que tiers, spécifiquement de parents sociaux, ils pourront faire établir un droit de visite, tout ça à l'appréciation du juge, mais oui, ils pourront obtenir, selon leur implication, selon la réalité du lien, le maintien des relations.
Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la difficulté, c'est la multiplicité des personnes qui vont intervenir dans la vie de l'enfant, et notamment des grands-parents, des parents, des coparents, qui eux aussi aimeraient avoir des droits, notamment des droits de visite, dans le cadre d'une éventuelle séparation. Comment ça se passe pour eux ?
Le droit existe, après c'est l'intérêt de l'enfant, donc après c'est le juge qui va estimer. Si c'est clair qu'il y a la compagne de la mère et le compagnon du père qui réclament le droit de visite, ainsi que le nouveau compagnon du père qui depuis s'est séparé, qui réclame aussi un droit de visite, ça va faire beaucoup. Mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc si le parent, après on peut imaginer qu'on peut distinguer entre le parent social qui était là à l'origine, c'est-à-dire clairement le parent qui a fait partie du projet, c'est le parent social, même s'il se sépare et qu'il vit que 2 ans avec le parent et qu'après il y a un autre conjoint qui vit 8 ans, peut-être que le parent qui vit 8 ans, il sera important pour l'enfant, il n'y a pas de doute, il l'aura éduqué, il aura aussi un lien, mais ça n'efface pas pour autant la place du parent social d'origine qui est quand même dans l'origine du projet. Donc ça peut être un critère pour pour ça. Et puis, et après, c'est le juge qui va voir ce qui est bon pour l'enfant. C'est vraiment que ça. C'est, tiens, est-ce que ce lien-là est bon pour l'enfant ? Est-ce que c'est... Mais c'est très compliqué, hein, c'est très aléatoire. Mais est-ce que ce lien... Donc, ce lien-là du parent social d'origine, c'est quand même l'histoire de l'enfant. Le lien avec le beau-parent, c'est peut-être pas son origine, mais toujours dit qu'il a vécu 10 ans avec lui. Les grands-parents, pareil. Mmh. Mais après, c'est une question de hiérarchie. Qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant, plus important ? S'il y a trop de personnes qui réclament, on va devoir sélectionner le lien le plus important ou les liens le plus important. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, s'il a la capacité à aller voir tout seul les personnes qu'il a envie de voir ou si l'autre parent prive de lien. Bon. Mais c'est tous les grands-parents, les parents sociaux, les beaux-parents fondent leurs droits sur le même texte. Donc, on les mêmes droits reconnus par la loi, mais après, c'est chaque cas qui est apprécié par le juge pour voir quel est le lien le plus fondamental ou le plus essentiel à l'enfant.
Oui, parce que il y a ça aussi dont il faut tenir compte, c'est que ce qui est difficile dans la coparentalité, c'est qu'il va falloir de base organiser la vie de l'enfant entre deux familles, et notamment organiser la vie du tout petit enfant. Et la séparation avec la maman biologique, elle n'est pas forcément simple au tout début. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Qu'est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce qui est conseillé ?
Alors, ça se passe comme chacun veut que ça se passe. Ça se passe donc, encore une fois, dans cette situation-là, on n'est pas obligé d'aller voir un avocat, on n'est pas obligé d'aller voir un juge. Et si ça se passe très bien, ça va se passer comme n'importe quel parent qui font au mieux selon ce qu'ils peuvent pour leur enfant. Donc, ils vont faire des expériences. Et s'il y a des parents qui estiment d'un commun accord ensemble qu'on va faire une garde alternée dès la sortie de la maternité, sauf à ce qu'un tiers vienne se mêler de ça en disant que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, au point de mettre l'enfant en danger, qu'il faut prévenir les services sociaux, ça c'est une chose. Mais sinon, personne n'a quoi que ce soit à dire. Il n'y a pas de juge d'affaires familiales qui va se saisir tout seul. Donc d'une part, c'est d'abord les discussions entre les parents, l'accord des parents pour estimer ce qui est l'intérêt de l'enfant. Et après, alors si on vient demander conseil, moi je considère que c'est pas à moi de dire qu'est-ce qui est l'intérêt de cet enfant-là, qui est l'enfant des gens, et que même à la naissance, ils doivent apprendre ce qui est l'intérêt de cet enfant-là. Maintenant, la pratique, évidemment, et la jurisprudence, lorsqu'il y a un conflit, quand l'enfant est vraiment trop trop jeune, je ne vais pas vous donner d'âge, parce qu'il y a des juges qui vont décider que c'est un an, d'autres qui vont décider que c'est 4 ans, ou c'est rentré en CP, donc c'est vraiment très aléatoire. Mais selon l'âge de l'enfant, on va évidemment adapter. Donc si la mère allaite, évidemment, c'est compliqué de dire qu'on va faire une garde alternée. Maintenant, si elle allaite jusqu'à ce qu'il ait 3 mois, c'est une chose. Si elle décide d'allaiter jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans, on a des décisions dans lesquelles le juge impose à la mère de sevrer l'enfant dans un délai de X mois pour pouvoir permettre le droit de visite, parce que c'est une façon de garder l'enfant avec elle. Donc effectivement, dans les situations de coparentalité, la plupart spontanément prévoient quand même une période déterminée pendant laquelle ça va d'abord être uniquement des visites du père à un certain rythme. Sachant que ce qu'on prévoit dans la charte, c'est toujours à défaut d'autre accord. Donc, c'est une sorte de base, mais on est toujours autorisé à faire différemment du moment qu'on est d'accord. Donc, on va peut-être dire, tiens, le père va venir 2 fois par semaine, et puis en pratique, il va venir 4 fois par semaine, et tout le monde va trouver ça très sympa.
La vraie difficulté dans tout ça aussi, c'est qu'établir une charte avant la naissance, c'est parfait, c'est même génial. Par contre, la naissance, c'est un vrai chamboulement pour tout le monde, oui. Et il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en cause.
Eh ben c'est bon. Alors, déjà la charte, elle est pas bon. C'est des projets. Moi, j'invite les gens à le faire avant, parce que comme ça permet de montrer quand on a la tête froide quels étaient nos principes et nos valeurs et les projets, objectifs. Ouais. Les objectifs. Maintenant, de toute façon, dans la vie de l'enfant, même d'un point de vue judiciaire, tout est soumis à évolution en cas d'éléments nouveaux. Donc, il est clair que si on prévoit dans la charte garde alternée après 6 mois, pas de problème, et que l'enfant il naît et qu'il a une insuffisance respiratoire et qu'il ne faut surtout pas le changer de son lit, voilà, le père qui dit « je vais appliquer la charte », on va aller devant le juge, et le juge va dire « oui, enfin, il y a un élément nouveau qui fait que la charte n'est pas applicable, point ».
Oui, d'accord.
Donc, alors ça, c'est une chose. Par contre, si c'est « oh, j'aime trop mon enfant, laisse tomber, il n'est pas question que tu le vois », là, c'est l'intervention du juge qui va dire « ok, bon, l'enfant est petit, donc je comprends, mais madame, c'est un père, donc voilà, on va essayer de… vous étiez d'accord avant, donc c'est bien quelque chose, vous n'étiez pas par principe contre la résidence alternée, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on va en fait discuter. Mais c'est pour ça que je pense que la charte, c'est bien qu'elle soit signée avant. Par contre, après, la convention qu'on va faire homologuer devant le juge et qui va devenir un jugement, ça peut être fait qu'après. Donc, à la rigueur, ça permet d'avoir une période entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on va adapter. Moi, il y a plusieurs cas où, là, j'ai un cas en tête, ils avaient prévu un rythme et puis ensemble, ils se sont rendus compte que leur enfant était un peu trop petit pour passer au rythme qu'ils avaient envisagé. Bon, c'est marqué dans la charte, mais c'est pas grave, on le fait pas. Si c'est ensemble, pas de problème. Si c'est pas ensemble, c'est le juge qui tranche. Et c'est pas parce que c'est marqué dans la charte que le juge va aller dans le sens de la charte. Le juge va juste dire, bon bah madame, vous aviez, ou monsieur, vous aviez dit ça dans la charte, explique-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais il peut très bien, le juge, comprendre qu'on ne soit pas d'accord.
D'accord. Et la question qui se pose aussi, du coup, c'est vrai que dans la mesure où il n'y a qu'une filiation, donc père-mère, la question de l'héritage des coparents est importante.
Comment ah ben là, rien. Là, au point de vue de l'héritage, les coparents sont des étrangers, donc il faut faire les testaments et on paye un max. Donc là, en général, la question de l'héritage entre les coparents et l'enfant va plutôt passer par une réflexion sur les liens entre les parents, enfin le coparent et son conjoint, le régime matrimonial qu'on va choisir et les modalités qu'on va mettre ensemble, parce qu'on va dire ok, si c'est moi qui meurs en premier, il faudrait qu'il se passe ça, si c'est toi qui meurs en premier, il faudrait qu'il se passe ça. Donc c'est toute une stratégie patrimoniale qui va falloir mettre en place. Et étant précisé aussi, j'ai oublié de le dire, que l'adoption simple dont on a dit jusqu'à maintenant qu'elle n'était pas pratique, qu'elle n'était même pas souhaitable puisqu'elle a des conséquences néfastes, redevient évidemment la solution à tout problème aux 18 ans de l'enfant. Puisqu'en l'enfant a 18 ans, plus de questions d'autorité parentale, plus de questions consentement, donc évidemment, on peut faire l'adoption simple de l'enfant du conjoint à 18 ans, et là, bim, l'enfant hérite.
Mais que, de la part d'un coparent.
Ah oui, que de la part d'un coparent, exactement.
Oui. D'accord.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'effectivement, cette adoption simple, et d'ailleurs, je crois que même l'adoption, non, que l'adoption simple, mais l'adopté peut en faire la demande lui-même à ses 18 ans.
Oui, mais enfin, il doit y consentir à 18 ans, mais il peut faire la demande, mais il faut quand même que. Enfin, la requête, c'est quand même une requête de l'adoptant. Il faut quand même que l'adoptant soit d'accord, hein, si on ne veut pas forcer les gens à adopter.
Complètement. Mais j'en reviens au cadre, justement, où. Un couple de femmes aurait pu se séparer durant le délai légal de le délai de 6 mois. L'une des solutions, c'est d'attendre les 18 ans de l'enfant et de mettre en place l'adoption simple.
Ah oui, non, ça, c'est bien sûr une solution. Maintenant, en général, s'il y a une séparation au point que les mères ne veulent pas patienter avant de divorcer pour faire l'adoption plénière, c'est que l'une des deux mères va vouloir bloquer l'établissement d'affiliation, et il y a aussi un risque qu'elle bloque le lien avec l'enfant. Donc du coup, c'est difficile de dire aux gens, vous inquiétez pas, à 18 ans, pour l'adopter, parce que ce que vont avoir, ce que les mères sociales vont surtout craindre, c'est de ne pas réussir à voir l'enfant, quoi, déjà. C'est déjà une solution. À 18 ans, on n'a plus besoin de demander l'accord de personne, si ce n'est de l'enfant. Donc,
Je vous remercie beaucoup, Maître Berdot, pour toutes ces précisions sur l'ensemble des cas qu'on a abordés aujourd'hui. C'est vrai que c'est pour nous, c'est très rassurant de savoir qu'il y a des hommes de loi, on va dire, qui s'y connaissent, parce que c'est assez fréquent qu'on se retrouve face à un notaire ou face à un avocat qui ne sait pas nous répondre. Donc aujourd'hui, je vais clairement inviter nos auditeurs à vous contacter s'ils ont besoin d'aide juridique, et je vais mettre en note de cet épisode le compte, votre site internet. Ce sera même le plus simple pour qu'on puisse venir vers vous.
Eh bien, avec plaisir, et merci beaucoup de votre confiance aussi.
Je vous en prie, à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le site internet de Maître Berdot, ainsi que les coordonnées de son cabinet parisien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. Feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind.
Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone.